Et avant de commencer, j'aimerais que vous inviter à courber la tête avec moi pour un mot de prière. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions de ce que tu nous aimes d'un amour éternel et de ce que, en cet instant, ta parole est ouverte. Nous voulons aussi que tu puisses ouvrir notre cœur à cette parole. Merci pour cette parole qui est la vérité. Et maintenant que nous allons étudier, s'il te plaît, conduis-nous dans toute la vérité. Et que l'esprit de vérité puisse nous animer ce matin, afin qu'à la fin de ce message, nous puissions comprendre ce que tu as voulu nous enseigner, comprendre ce que tu veux que nous sachions. Merci pour tout ce que tu fais, et merci d'être là avec celui qui parle en cet instant. Donne-lui la force, le courage, et surtout, sois avec sa bouche, selon la promesse d'Exode 4, le verset 12, que tu as fait à Moïse. Seigneur, que cette promesse se réalise aussi dans la mienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, j'aimerais juste... Est-ce que c'est bon si je ne parle pas avec le micro, hein? Ok. Ok, c'est bon. Oui. Oui. Ok. Vos Bibles. Vous avez vos Bibles? Ok, c'est bon. Parce qu'on va tourner un peu les pages de la Bible pour pouvoir voir un peu le sujet d'aujourd'hui. Gardez les yeux sur lui. Premier texte, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Nous allons voir peint un tableau et puis à la fin, nous allons voir tous les versets et constater qu'il y a deux différents chose qui se passe. Ok? Alors, Ézéchiel 28. Nous savons de ce que Ézéchiel 28 parle de la chute de Satan. Ok? Le chapitre est très connu. D'ailleurs, lorsqu'on fait les études bibliques, on a cette tendance. C'est le chapitre qui parle de la chute de l'ennemi pour montrer comment le mal est venu, comment le mal a commencé dans le ciel, comment le mal a commencé dans le cœur de quelqu'un qui a été créé parfait. Ézéchiel 28, le verset 15. Il nous est dit ici, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Donc ici, c'est quelques versets nous donnent un peu comment Lucifer a chuté dans le ciel. Lorsque nous regardons ces versets, nous comprenons un peu ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que des fois, l'esprit de prophétie, nous ne savons pas complètement comment le mal est entré dans le cœur de Lucifer. C'est pour cela que c'est appelé le mystère de l'iniquité. Donc, on va essayer de voir avec les détails que la Bible nous donne, de voir comment cela s'est passé et comment l'ennemi a pu établir, je dirais, son gouvernement et sur quoi son gouvernement est basé. La Bible nous dit ceci, son cœur, le verset 17, que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Laissez-moi vous poser une question maintenant. Comment savons-nous que nous sommes beaux et belles? Dans un miroir, ou bien les gens nous le disent, n'est-ce pas? Les gens nous le disent, ou bien nous regardons dans un miroir. Mais la Bible dit ici de ce que son cœur s'est élevé à cause de ta beauté. En d'autres mots, ce que nous pouvons voir là-dedans, c'est que à un certain moment dans la vie de Lucifer, il s'est regardé à lui-même, il s'est dit, mais je suis beau. Mais je suis, il y a presque pas de différence entre moi et Dieu. Pourquoi Jésus peut avoir cette place et non pas moi? C'est ce que l'esprit de prophétie nous dit par rapport à la chute de l'ennemi. Le cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Et lorsque nous regardons le verset 12, au verset 12, il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Donc, il y a quelque chose ici. On parle de Lucifer, c'est sûr. On parle de la perfection qui est la perfection de Lucifer ici. On parle de la beauté qui est une beauté parfaite de Lucifer ici. Mais la Bible dit au verset 17, c'est à cause de ta beauté que ton cœur s'est élevé. Mais qui a donné la beauté à Lucifer? C'est Dieu. Donc, est-ce que la conclusion serait c'est un peu la faute de Dieu? Non. C'est pas la faute à Dieu. Dieu crée ses créatures parfaites. Il lui donne une beauté qui est parfaite. Mais lorsqu'on se détourne de celui qui nous a donné cette perfection, c'est à ce moment-là que vient le péché. Parce qu'on s'arrête sur soi-même. On s'arrête sur un point que Dieu lui-même a mis en nous. Et c'est ça le problème avec Lucifer. Dieu lui a donné une beauté parfaite. Et voilà, à cause de cette beauté, il se détourne de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de choses, des talents, argent, intelligence, beauté, beaucoup de choses, vous pouvez les nommer. Mais serait-il possible que, à cause de ce que Dieu nous a donné, cela peut nous détourner de Dieu? Si nous ne gardons pas toujours les yeux sur celui qui pourvoit, qui nous donne ces choses. Il y a un ami à moi qui, pendant plusieurs années, que lui, il a prié pour, on faisait le travail missionnaire dans une vanne, mais la capacité de la vanne, c'était 3 personnes seulement, selon la loi. Mais il y avait, selon la loi du pays, c'est pas au Québec, hein, c'est à l'île Maurice. Mais il y a une autre vanne qu'il peut conduire, mais il faut qu'il y ait un autre permis pour cela. Il a le permis, mais il n'a pas la vanne. Donc on priait pour avoir la vanne, pour pouvoir amener plus de personnes pour faire le travail missionnaire. Et voilà qu'on a prié, et le Seigneur a répondu, il a eu la vanne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a arrêté. Il a arrêté. Il a arrêté le travail missionnaire. À cause, il a eu la vanne. Et puis, il a trouvé d'autres choses à faire. Il peut faire d'autres travaux avec. Au lieu que de conduire les enfants à l'école pendant la semaine, le week-end, il peut travailler. Le dimanche, il peut travailler, faire des courses. Tout ce que Dieu nous donne, si nous oublions celui qui nous a donné cela, il est possible de tomber tout comme l'ennemi a tombé. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce que Dieu nous a donné, on doit toujours lui rendre gloire pour ce qu'on est, ce qu'il a mis en nous et ce qu'il a pourvu à notre besoin. Et voilà que maintenant l'ennemi a commencé avec ce genre d'attitude, de se voir, de se regarder à lui-même. Il commença à dire j'ai la capacité d'être parmi la Trinité. Je peux être Dieu en quelque sorte. Et c'est pour cela que Ésaïe, le chapitre 14, nous donne un peu ce qui se passe dans le cœur de Lucifer. Le verset 12, exactement, merci. Vous savez que dans la Bible française, il n'y a pas de nom Lucifer. Vous avez seulement la traduction. Mais la Bible anglaise le dit simplement Lucifer, ne donne pas la traduction. Donc, ce que nous voyons ici dans le verset 12, il dit « Te voilà tombé du ciel astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je resterai sur le sommet des nuées, je serai semblable à qui? Au Très-Haut. Le désir de l'ennemi maintenant, de Lucifer, puisqu'il s'est regardé à lui-même, il a commencé à avoir cette attitude d'aller plus et d'être plus que Dieu. Et voilà que Ésaïe nous donne un peu plus de détails. Il dit que Lucifer, dans son cœur, il disait toutes ces choses. Mais vous avez remarqué dans tout ce qu'on a lu, quelque chose qui se répète. J'élèverai, je m'assierai, je monterai, je serai. En d'autres mots, c'est que il était tellement centré sur lui-même que il a cessé de regarder à Dieu, il a regardé à lui-même et il s'est dit, bon, voilà. Moi, je peux monter au ciel. Je peux élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je peux m'asseoir sur l'assemblée, sur la montagne de l'assemblée, et je peux monter sur le sommet des nuées et être semblable à Dieu, et être semblable au Très-Haut. Pourquoi? Il se voit lui-même comme Dieu. Il a cessé de regarder à Dieu, il se regarde lui-même. Maintenant, une autre question. Puisque maintenant, Lucifer a commencé avec ce genre d'attitude de se regarder à lui-même. Il disait en son cœur, voilà. Nous voyons dans Ésaïe 14 ce qu'il y avait dans son cœur. Il commence à bâtir en quelque sorte, son attitude, son atmosphère, ou bien nous pouvons dire son gouvernement, qui est basé, qui est centré sur le moi. Maintenant, puisqu'il a commencé toutes ces choses dans le ciel, arrivé sur terre, est-ce qu'il va changer aussi d'attitude? Est-ce qu'il va changer avec le point de départ, avec ce quoi il a commencé? Pensez-vous qu'il va changer de tactique lorsqu'il a tenté nos premiers parents? Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. Verset 1 à 5. Ça va? Ok. Le serpent était le plus beau, le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc, lorsque nous lisons ce texte, nous savons ce texte comme par cœur. Il y a toutes les études qu'on fait passent sur ces différents textes qu'on a vus. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a une constance dans ce que l'ennemi a fait, dans ce qu'il disait en son cœur, et sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a fait avec nos premiers parents. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons il y a une conversation entre le serpent et la femme. Et voilà que le serpent pose la question à la femme, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit que vous mangez tous les fruits du jardin? Et puis la femme dit, oui, nous pouvons manger tout, mais il y a seulement un arbre qu'on ne doit pas manger de son fruit, ni même y toucher. Et voilà que l'ennemi vient avec sa tactique qu'il est plus habile avec. Le verset 4, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Le verset 4. Vous avez remarqué encore quelque chose ici? C'est qu'il dit à la femme, pas seulement il ment, il dit une partie de vérité, une partie de mensonge, et il cache une partie de la vérité. C'est-à-dire, une partie qu'il cache, c'est que la mort qui vient par la suite. Mais ce que j'aimerais vous attirer votre attention là-dessus, c'est que la partie où il dit « Vous ne mourrez point. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire à la femme? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à la femme? Il est en train de dire à la femme, écoute-moi bien. Détourne ton regard de Dieu, mais regarde à toi. C'est que si tu manges de ce fruit, tu ne mourras point. Mais tes yeux s'ouvriront. Mais tu seras comme Dieu. En d'autres mots, cesse de regarder ce que Dieu est en train de dire, cesse d'écouter ce que Dieu dit, mais fais ce qui est contraire à Dieu, mais tu verras les avantages. Tu auras plus d'avantages que d'écouter Dieu. Pourquoi? Parce que si tu te concentres vers Dieu, Dieu t'empêchera de faire beaucoup de choses. Mais lorsque tu écoutes ce que tu peux avoir en désobéissant Dieu, c'est meilleur, puisque tes yeux s'ouvriront, puisque tu ne mourras point, et que tu seras comme un dieu. En d'autres mots, regarde à toi, mais essaye d'oublier Dieu, mais regarde à toi-même. Comment ta vie changera? Comment cela va changer ta vie, ta relation? Comment cela va changer ton intelligence? Comment cela va changer toute la perspective que Dieu a mis devant toi? En d'autres mots, fais ce qu'il te plaît. Regarde à ton propre désir. Regarde à ton propre intérêt, premièrement. Mets de côté ce que Dieu t'a enseigné. Il a commencé au ciel avec une attitude. Il disait en son cœur la même chose. Et voilà qu'il descend sur terre avec une attitude qui est le même, mais qui est fait d'une façon à ce qu'il séduit la femme, d'une façon particulière, que la femme cesse de regarder vers Dieu et que la femme se regarde à lui-même maintenant. Il garde toujours les mêmes principes. Il garde ce même niveau, ce même tentation. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, qu'est-ce que la tentation, si ce n'est que de satisfaire soi-même? Qu'est-ce que la tentation, si ce n'est que de satisfaire nos propres besoins? Qu'est-ce que la tentation, si ce n'est que on fait ce qu'on veut? Et on oublie Dieu. En d'autres mots, c'est qu'il est en train de dire aussi à la femme, tant que tu écouteras à la voix de Dieu, tout ce que je t'ai dit, tu peux l'oublier. Tes yeux s'ouvriront, tu seras comme un Dieu, tu ne mourras point. Tu peux l'oublier. Tant que tu obéis à la voix de Dieu, tout cela sera mis de côté. Tu n'auras pas tout ce privilège. En d'autres mots, écouter la voix de Dieu serait nous couper du vrai bonheur. De mettre de côté la voix de Dieu, mettre de côté la parole de Dieu, serait de nous couper de ce que nous pouvons jouir dans ce monde. Aujourd'hui, lorsque nous regardons nos vies, notre situation, est-ce que nous sommes en train de suivre le même chemin que nos premiers parents? Lorsque nous péchons, sommes-nous en train de commettre la même chose, c'est de mettre de côté la parole de Dieu et de faire ce que nous voulons faire? Sommes-nous en train de tomber dans les mêmes tentations que nos premiers parents, c'est d'écouter la voix de l'ennemi? Pourquoi? Parce que si on fait cela, cela satisfera nos propres besoins. Et si nous écoutons la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas le vrai bonheur qui se trouve dans le monde. Alors que Dieu nous a donné des choses, nous a donné des lois, nous a donné des préceptes, des commandements à suivre. Est-ce que c'est trop dur? Est-ce trop dur? Est-ce que les commandements de Dieu nous empêchent de voir et d'expérimenter le vrai bonheur? Et c'est ce que l'ennemi faisait à la femme. En d'autres mots, si tu continues à écouter la voix de Dieu, tu n'auras pas tout ça. Tu ne serais pas comme un Dieu. Tes yeux resteront toujours fermés. Il y a des gens qui pensent, il y a des jeunes et des gens qui pensent que pour être un bon chrétien, il faut qu'on ait une expérience dans le monde et puis revenir. Il faut qu'on puisse goûter à ce que le monde offre et puis revenir. Il faut désobéir à Dieu à un certain moment et puis retourner. Mais en quelque sorte, on obéit à ce que l'ennemi est en train de dire. C'est que, vas-y, là-bas tes yeux s'ouvriront et puis quand tes yeux s'ouvriront, tu peux retourner. Mais on ne sait pas si on pourra retourner à temps. On ne sait pas si arrivé là-bas et s'il arrive quelque chose, on est perdu pour toujours. On ne sait pas que si on arrive à l'extérieur dans ce monde et jouir de ce que le monde peut nous offrir et que Jésus revient, on perd la vie éternelle. On ne sait pas. Et ce que l'ennemi a bien caché, c'est la mort qui vient après. Je ne sais pas si vous connaissez un logiciel qui s'appelle Photoshop. C'est un logiciel que... Vous savez ce que c'est quoi, hein? Okay. Photoshop, c'est un logiciel que là où vous pouvez prendre une image, l'image peut-être vilaine ou quoi que ce soit. Et avec Photoshop, vous pouvez rendre l'image plus belle. Mais, et moins belle aussi. Et moins belle aussi. Mais le truc avec Photoshop, c'est que vous pouvez changer l'image. Vous pouvez changer l'image. Mais le vrai image, l'original, reste toujours la même. En d'autres mots, c'est que l'ennemi a fait, il a pris Photoshop et a présenté à Ève et a dit, voilà ce que je peins devant toi. Mais ce qui se cache derrière l'image, il ne l'a pas dit, c'est la mort qui vient après. Et c'est ce que l'ennemi nous fait faire des fois, c'est de prendre des décisions, d'aller, de faire notre propre, ce qu'on a envie de faire. Et puis à la fin, il nous laisse là avec les conséquences. Maintenant, on voit ce que l'ennemi est en train de faire, ce qu'il a commencé dans le ciel, ce qu'il a établi sur la terre. On voit toujours les mêmes, une constance dans ce qu'il a fait. Mais est-ce que Dieu, dans sa parole, nous donne le contraire de ce que l'ennemi a établi? Puisque Dieu est celui qui connaît tout, puisque Dieu est celui qui a créé toutes choses et qui a établi beaucoup de choses sur cette terre, est-ce que Dieu nous donne un moyen de sortir de cette emprise? Est-ce que Dieu nous donne une solution? Est-ce que Dieu nous donne, ou bien nous montre, sur quoi est basé son gouvernement? Sur quoi est basé le ciel? Nous avons une école de sabbat là-dessus aujourd'hui qui parle sur la loi de Dieu. Mais nous allons voir l'autre facette de la loi de Dieu. Lorsque nous regardons Exode chapitre 20, le verset 1 à 17, nous n'allons pas lire tous les versets, mais c'est juste que lorsque nous regardons la loi, Dieu a un gouvernement, n'est-ce pas? Dieu a un gouvernement. Mais qui est la base? Qu'est-ce que la base d'un gouvernement? C'est la loi. OK? C'est la loi. Et Dieu a besoin d'une loi qui est Je dirais que la loi de Dieu est éternelle. Et l'ennemi arrive avec lui, sa loi, c'est regarder à soi-même. Ok? Regarder à soi-même. Et Dieu arrive avec les 10 commandements qui nous montrent la base de son gouvernement. Sur quoi son gouvernement est basé. D'ailleurs, l'école du sabbat partie vendredi, premier paragraphe, il nous est dit que la loi de Dieu a été donnée comme une mûre de protection. N'est-ce pas? Parti vendredi, comme une mûre de protection. Une mûre de protection contre quoi? Contre le péché, oui, mais c'est quoi le péché? Qu'est-ce que la loi peut nous protéger? La loi, c'est seulement les 10 paroles qui nous dit tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Souviens-toi, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Tu ne. Mais comment la loi peut remédier à la situation dans laquelle nous sommes en train de voir depuis qu'on a commencé? Matthieu, le chapitre 22, le verset 34. Chapitre 22, verset 37. Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. Nous allons voir de ce que la loi, les 10 commandements, comme nous l'avons vu, comme nous le connaissons si bien, que la loi est résumée en 2. Ok? Et Jésus lui répondit, les pharisiens qui posent la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Et les prophètes. Maintenant, c'est intéressant de voir de ce que Dieu a une loi dans le ciel, qui gouverne le ciel, qui gouverne l'univers. Et voilà que Jésus arrive et dit, voilà le résumé de tous les 10 commandements, c'est aime Dieu, aime ton prochain, comme toi-même. Mais comment cela peut remédier à la situation dans laquelle nous trouvons alors que nous avons vu que l'ennemi, lui, son propre intérêt, c'est de s'élever et que le péché qu'il nous tente avec, c'est de se regarder à nous-mêmes, c'est de centrer sur le moi. Comment la loi peut contredire tout cela? Mais lorsque nous regardons la loi de Dieu, ce que Jésus vient de nous dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que Jésus a ajouté un autre commandement qui a dit « Tu aimeras toi-même comme toi-même » ? Non. Lorsque nous regardons cette loi, nous voyons de ce qu'il y a Dieu en premier. Et puis, il y a qui ? L'autre. Il y a l'autre. Mais la loi de Dieu est basée sur deux choses alors. C'est-à-dire que sur Dieu et sur l'autre. Sur soi. Ce qui fait sens à la loi de Dieu maintenant, c'est que la loi de Dieu n'est pas basée sur une loi égoïste, mais une loi qui est, comment je peux le dire ça en français, qui est selfless, qui altruiste, ok, qui traduction française. Christ. Oh, ouais. Mais qui est l'autre aussi. C'est ça, c'est une loi de Dieu. La loi de Dieu est une loi qui n'a pas de chemin, qui n'a pas de choses qui concernent l'égoïsme. Qui est une loi qui n'a pas cette attitude d'égoïsme. D'ailleurs, lorsque nous regardons maintenant, nous voyons les deux royaumes ou les deux gouvernements. Voilà que l'ennemi, lui, son avec le truc qu'il a amené sur terre, c'était voici vous ne mourrez point, regardez à vous-même, regardez à soi-même, regardez à nos propres besoins, alors que Dieu place les commandements et nous dit, voilà, il y a Dieu et les autres. Lorsque nous comprenons la loi, vous vous dites, mais si nous regardons à Dieu, si nous regardons aux autres, maintenant il n'y a plus de place, est-ce que je dois ne pas me prendre soin? Non, mais lorsque nous regardons la loi de Dieu, exactement, exactement, comme toi-même. Mais lorsque vous regardez la loi, lorsque on prend soin, disons, si je vous donne un exemple, disons que j'aime mon prochain comme moi-même. Allons dire que mon frère qui est là, il n'a pas un manteau. Je l'aime comme moi-même, je prends mon manteau, je lui donne. Et voilà qu'un autre frère, lui, il me voit, il dit, ah, il n'a pas un manteau. Il prend son manteau, il nous donne. C'est comme une chaîne si on part comme ça. Et finalement, une chaîne, on reste toujours, toujours dans un cercle qui est un cercle qui n'a pas d'égoïsme, qui n'est pas centré sur moi, mais qui est centré sur Dieu et sur l'autre. Voilà la base du gouvernement de Dieu, qui est centré sur Dieu, qui est centré sur les autres. Voilà comment Dieu, avec sa loi, détruit ce que l'ennemi veut instituer sur la terre, veut instituer dans nos cœurs, c'est cette attitude d'égoïsme. C'est cette attitude qui essaie de nous faire comprendre ou de faire croire de ce que nous devons nous regarder à nous-mêmes en premier. Mais il y a une chose, c'est que la loi de Dieu est une loi qui gouverne aussi le gouvernement de Dieu. C'est une loi qui nous rappelle de ce que Dieu est amour. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons à la loi de Dieu, nous voyons un Dieu amour, nous voyons un Dieu qui est puissant, nous voyons un Dieu qui nous montre un mode de vie, parce que c'est là où nous allons vivre avec lui. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas d'autres différentes lois que nous avons maintenant sur la terre. Et c'est pour cela que en pratiquant ce que Dieu nous a donné, nous nous préparons pour être au ciel. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu le chapitre 5 ou 6, si je ne me trompe pas, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce qu'il parle de la perfection en tant que parfait, ou bien il parle de la perfection qui est les quelques versets qu'il a parlé avant qu'il parle sur l'amour pour les autres, ou bien il parle de cette perfection en amour. Et comment cet amour devient parfait? C'est en regardant à la loi de Dieu, Dieu et les autres. C'est de pratiquer cette loi. D'ailleurs, lorsque nous regardons, est-ce que Dieu seulement donne une loi et que lui-même il ne pratique pas? Est-ce que Dieu peut donner une loi et que lui-même il n'obéit pas? Est-ce que Dieu peut nous demander de faire quelque chose et lui-même il ne le fait pas parce qu'il est Dieu? Non. Jean le chapitre 3, le verset 16, texte très connu, n'est-ce pas? Parmi les adventistes. Texte très connu. Mais beaucoup de dénominations aussi. Jean 3, le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Avez-vous déjà imaginé que si Dieu avait été un Dieu égoïste, ou bien il pensait à lui-même, est-ce qu'il aurait donné son Fils? Non. Parents, je ne pense pas que les parents oseraient donner son Fils pour sauver un criminel, un voleur, ou une personne qui est en état qui transgresse la loi de Dieu. Je ne pense pas qu'en tant que parents, nous pourrions faire cela. Mais Dieu, lui, dans son amour, puisque lui, c'est la base de son gouvernement, c'est de penser à l'autre, c'est de penser à nous, à ces créatures, même si nous avons péché, même si nous avons chuté, même si nous avons été désobéissants, mais il pense toujours à nous en donnant son Fils. Il n'a pas gardé son Fils pour lui-même. Il n'a pas eu cette attitude d'égoïste pour dire, oh, ils ont péché. Laissons-les se débrouiller par eux-mêmes, essayer de sortir par quoi que ce soit, par leur propre, dans leur propre situation. Mais non, mais Dieu a pensé à nous. Dieu a pensé à ses créatures et il dit, je donne mon Fils pour vous sauver. Il garde sa loi. Sa loi est reflétée dans ce qu'il a fait en donnant son Fils. D'ailleurs, nous avons vu l'école du sabbat, la loi de Dieu reflète le caractère de Dieu. Nous voyons de ce que Dieu démontre une attitude qui n'est certainement pas une attitude d'égoïsme. Et voilà que maintenant, lorsque nous regardons ce que Dieu a fait, lorsque nous regardons ce que Dieu a donné sur la croix, c'est-à-dire son Fils, nous voyons un acte d'amour. Et lorsque nous contemplons Jésus sur la croix, nous comprenons le conflit, nous comprenons le péché, et nous comprenons aussi c'est quoi consiste le royaume de Dieu. Le conflit, c'est qu'il y a un gouvernement qui est basé, qui est centré sur le moi, et qu'il y a un autre gouvernement qui est basé pas sur le moi, qui n'est pas basé sur le moi. Le péché, la gravité du péché, comment le péché a amené tant de malheurs sur cette terre, et que la croix est la solution. Et que nous voyons aussi l'amour de Dieu pour l'humanité en envoyant son Fils unique. Et c'est pour cela que nous avons le texte que le frère nous a lu, Philippiens le chapitre 2, le verset 5, à partir du verset 5, parce que nous allons voir quelque chose de très intéressant là-dedans. À partir du verset 5. Et il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok? Lorsque nous regardons ce texte aussi, nous voyons de ce que Jésus, lorsque la Bible nous dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ », et la Bible est en train de dire « Ayez les mêmes sentiments que Jésus avait ». Quels sont les sentiments que Jésus avait lorsqu'il est venu sur terre selon ce qu'il est écrit ici? Est-ce que Jésus a dit « Je suis Dieu, vous êtes mes serviteurs » Non. Est-ce que Jésus est apparu dans tout son éclat et il s'est dit « Voilà, je suis Dieu, prosternez-vous » Non. Mais la Bible nous dit que ayant ce sentiment qui était en Jésus-Christ, que lui, même s'il était Dieu, il avait un sentiment de serviteur. Il pensait à l'autre. Et c'est pour cela qu'il a accepté de donner sa vie pour le salut de tout un chacun. Dieu donne son Fils, lui, il donne sa vie pour nous. En d'autres mots, la Trinité elle-même, c'est une Trinité qui ne pense pas à soi, qui ne pense pas, qui n'est pas une attitude d'égoïsme, mais qui est cette attitude de penser à l'autre en premier. Et d'ailleurs, j'aimerais vous lire une citation d'Ellen White qui nous parle lorsque Dieu a donné Jésus. Qu'est-ce qu'il a donné en fait? Vous m'excuserez, j'ai pas eu le texte en français. Je sais que le livre d'où ça sort, c'est Le signe des temps, avril 4, 1892, paragraphe 10. Il nous dit, je vais juste traduire. Il nous dit, la sœur Ellen White parle, elle dit, je veux rendre gloire à Dieu qui a pourvu pour notre richesse, de si grandes richesses qui vient du ciel. En nous donnant son Fils, il nous a tout donné. Les ressources du ciel, toutes les ressources du ciel a été exhausted.
Exhausted.
A
être
été...
trop fatigué ou a été exaucé?
Non. Dépensé, ouais. Okay. Comme dépensé tout. Toutes les ressources du ciel a été dépensé, a été donné à travers Christ, en Christ. C'est-à-dire, vous imaginez le ciel, les ressources du ciel. Dieu nous a tout donné en son Fils. Tout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, là. Comment le ciel est grand, comment Dieu est grand, et que Dieu nous donne tout à travers son Fils. C'est-à-dire qu'il n'a pas gardé quelque chose pour lui. Il dit, non, je suis Dieu, je garde quelque chose, là. Non. Il a tout donné pour le salut de tout un chacun. Et lorsque nous retournons vers ce qui a causé la chute de l'ennemi, c'est tout simplement il s'est détourné de Dieu pour se regarder à lui-même. Tout a commencé ainsi. Est-ce que notre seule sauvegarde, c'est garder les yeux sur lui, garder les yeux sur Jésus? Est-ce que notre seule sauvegarde, c'est maintenant, c'est de tourner les yeux vers celui qui nous donne la force, le courage, vers celui qui nous donne la sagesse et l'intelligence, vers celui qui nous a donné son Fils? Premier écrit, page 14, le premier paragraphe, il nous dit, c'est le chapitre où la sœur Ellen White eut sa première vision, ok? Et elle dit, « Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider. Et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. » Tant que ceux et celles qui marchent avec Dieu gardaient les regards sur Jésus, ils étaient en sécurité. Il n'y avait point de peur, il n'y avait point de chute, puisque leur regard était sur Jésus. Une deuxième citation, toujours premier écrit, page 105, paragraphe 2. Celui-là, c'est le chapitre qui parle sur... l'ordre évangélique. Juste après l'ordre évangélique, il y a un chapitre juste après l'ordre évangélique. Le chapitre qui parle l'ordre évangélique, juste après, il parle, je pense, des difficultés de l'Église. C'est ce chapitre-là. Il nous dit ici, « Dieu est notre force. Nous devons regarder à lui pour obtenir la sagesse et savoir nous diriger. Si nous avons toujours en vue sa gloire, le bien de l'Église et le salut de nos âmes, nous vaincrons tous les péchés qui nous assiègent. » C'est-à-dire que tant que nous avons en vue Dieu, tant que nous avons le regard sur lui, nous avons des choses, nous avons la victoire sur le péché, nous avons la victoire dans quoi que ce soit. Tant que nous avons en vue sa gloire, tant que nous regardons les yeux sur lui. Voilà qu'il y a quelqu'un qui s'est détourné, qui a détourné son regard de Dieu, il a chuté, et nous voyons, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est la conséquence d'un tel acte. Pour remédier à cela, Dieu nous donne sa loi. Dieu nous donne un moyen d'en sortir. Et à la fin, c'est de constamment garder le regard sur lui. J'ai appris tout récemment que, j'ai lu ça quelque part, je pense que c'est dans un journal ou sur Internet. Il dit ceci, que pour dresser un chien, le maître, ben, c'est pas dresser un chien comme vraiment dresser là, mais c'est juste pour lui donner un principe. Comme le chien est dressé à ne pas manger à tout ce que les autres lui offrent. Ok, d'une façon. Maintenant, le maître, lui, il veut dresser le chien à ne pas manger la nourriture qui est là avant que lui, il le dise d'aller manger. Il met la nourriture ici et le maître se tient ici. Il appelle le chien. Le chien arrive et puis il va directement à la nourriture parce qu'il a vu la nourriture. Et pour lui, dans sa tête, c'est « il faut manger ». Il faut manger la nourriture. Et voilà que avec un petit bâton, il frappe le chien. Le chien comprend qu'il y a quelque chose, qu'il a fait quelque chose de mal. Une deuxième fois, il appelle le chien repart vers la nourriture. Il frappe un coup encore. Le chien comprend de ce qu'il y a quelque chose qui l'a fait mal. Troisième fois, il appelle le chien. Même chose. Il lui tape un coup. Mais quatrième fois, lorsqu'il appelle le chien arrive et lui regarde directement dans les yeux. Détourne pas son regard. Il regarde seulement son maître dans les yeux. Pourquoi? Parce que il sait le moment où il détourne son regard de son maître, il va aller manger. Il va aller manger. Il sait que tant qu'il garde les regards sur son maître, il est sauf. Il n'aura pas de coup de bâton. Mais cette histoire nous fait comprendre de ce que si nous aussi nous gardons les yeux sur lui, tout ce qui est autour de nous n'aura pas d'importance, ne sera pas un sujet de tentation pour nous, puisque nous avons le regard sur Dieu, puisque nous avons les regards sur le Maître. Lorsque nous regardons tout autour de nous, c'est sûr de ce que nous allons être comme ce petit chien, que dès qu'il détourne son regard de son Maître, il va manger la nourriture. Mais tant que nous regardons vers lui, et tant que nous gardons les regards sur lui, la sœur Ellen White nous dit, nous pouvons vaincre tous les péchés. C'est ce que la prophétie nous dit, nous pouvons vaincre tous les péchés. Ma prière pour chacun d'entre nous cet après-midi, c'est que nous puissions garder les yeux sur lui jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que tant que nous allons détourner nos regards et regarder de droite, de gauche à droite, nous allons oublier. Et nous allons tomber. Mais tant que nous avons le regard sur lui, nous serons sains et saufs et en sécurité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et que Dieu nous aide dans notre cheminement avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.